dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, ah mais j'ai pas besoin de m'occuper de ça, Jésus traverse la Samarie, une contrée pas vraiment tout à fait juive, et il est en pleine discussion avec une femme de cette région, à laquelle il vient de montrer qu'il savait tout de sa vie. Alors on va regarder ce passage, évangile de Jean, chapitre 4, on va prendre au verset 19. On prend donc au cours de la discussion de Jésus avec cette femme. « Seigneur, lui dit la femme, verset 19, je vois que toi, tu es prophète. » Elle dit ça parce que Jésus, justement, venait de lui dire qu'il savait toute sa vie. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Alors pour comprendre ces paroles de Jésus, on est obligé de faire un petit rappel historique. Jusqu'au roi Salomon, le royaume d'Israël était uni sous un seul sceptre. Mais à la mort de ce dernier, vers moins 930, des troubles politiques ont abouti à une sécession entre les 12 tribus issues des 12 fils de Jacob. 10 tribus se sont données comme roi un serviteur de Salomon qui s'appelait Jéroboam et ont constitué le royaume du Nord, avec pour capitale Samarie. Et 2 tribus, Juda et Benjamin, ont constitué le royaume du Sud sous le sceptre de l'un des fils de Salomon qui s'appelait Roboam, avec pour capitale Jérusalem. Le royaume du Sud avec Jérusalem avait gardé le temple, préparé par le roi David et érigé par son fils Salomon, lieu de culte officiel, clairement approuvé par Dieu lors de son inauguration, comme on peut le lire par exemple dans le premier livre des rois, au chapitre 8. Le coffre de l'Alliance avait été amené solennellement par les prêtres, de la tente où il était conservé jusque dans le temple, et le passage en question dans 1 roi 8 nous dit « Au moment où les prêtres sortaient du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur. Les prêtres ne pouvaient plus se tenir là pour officier à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. » La nuée, dans l'Écriture, symbolise la présence du Seigneur et spécialement de son esprit. Et c'est particulièrement clair donc dans ce verset. Le roi Jéroboam, lui, qui régnait à Samarie, avait bien senti la nécessité d'établir aussi un sanctuaire pour s'assurer l'allégeance des 10 tribus du Nord. Il avait donc érigé lui aussi un lieu de culte, à Bethel, avec un autel et des prêtres qu'il avait lui-même nommés, mais qui n'étaient pas pour la plupart des Lévites, donc une prêtrise illégitime. Et de plus, il avait fabriqué des idoles qu'il proposait à l'adoration des Israélites. On trouve ça dans le 12e chapitre du premier livre des Rois. En moins 1722, Dieu met fin au royaume du Nord, suite aux infidélités répétées de ses rois et de ses habitants, et malgré les avertissements insistants des prophètes qu'il lui avait envoyés. le roi d'Assyrie, la puissance dominante de l'époque, investit la Samarie et déporte une bonne partie de la population dans son pays. Il installe à la place des colons assyriens, mais qui vont avoir bien des problèmes, comme on peut le lire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 17. Je vous propose qu'on lise ce passage. Donc, deuxième livre des rois, au chapitre 17, à partir du verset 24. 2 Rois 17, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Avva, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas le Seigneur. Et le Seigneur envoya contre eux les lions qui les tuaient. On dit alors au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as exilées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la règle du Dieu du pays. Il a envoyé contre elles les lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la règle du Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre, « Faites aller là-bas l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il aille y habiter et qu'il leur enseigne la règle du Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre le Seigneur. Mais chaque nation faisait ses propres dieux. Les nations qui avaient été déportées, alors là, enfin, les colons qui étaient venus d'Assyrie en Samarie, parce qu'il y avait plusieurs nations. Donc chaque nation faisait ses propres dieux. Ils les placèrent dans la maison des hauts lieux qu'avaient bâti les Samaritains, dans les villes où chacune des nations habitait. Les gens de Babylone firent Sukkot-Benot, les gens de Kout firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, les Havites firent Nibaz et Tartak, les Shepharvaïtes jetaient au feu leurs fils pour Adramélec et Anamélec, dieu de Shepharvaïm. Comme ils craignaient aussi le Seigneur, ils nommèrent n'importe qui parmi eux comme prêtre des hauts lieux. Ces prêtres officiaient pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient le Seigneur, Yahvé, le Dieu d'Israël, mais ils servaient aussi leur propre Dieu, selon la règle des nations d'où on les avait exilés. Et je saute au verset 41. Ces nations craignaient le Seigneur et servaient leur statut. Leurs fils et leurs filles, et les fils de leurs fils, agissent jusqu'à ce jour comme leurs pères ont agi. Voilà donc ce qui s'est passé lors de cette colonisation de la Samarie par des nations venues d'Assyrie. Et on voit donc que la population de la Samarie avait adopté une religion qui était un mélange entre l'adoration du vrai Dieu, le Dieu d'Israël, Yahvé, et la religion des multiples dieux assyriens, représentés sous forme d'idoles, de statues, et avec des pratiques typiquement païennes, comme le fait de sacrifier leurs enfants par le feu, ce qui se faisait dans les nations païennes qui environnaient Israël. Quant aux 10 tribus du Nord, qui avaient été donc déportées, il semble qu'elles ne soient jamais revenues en Palestine. Le royaume du Sud connaîtra lui aussi la déportation 130 ans plus tard, en -586, par l'invasion des néo-babyloniens qui seront la grande puissance politique et militaire de l'époque, succédant à l'hégémonie assyrienne. Les Israélites du Sud resteront 70 ans en déportation, puis un certain nombre d'entre eux reviendront dans leur pays sur l'ordre du monarque médo-perse de l'époque qui s'appelait Cyrus, et cela sur l'incitation de Dieu lui-même. Ils vont donc revenir pour reconstruire Jérusalem et le temple, qui avaient été complètement détruits lors de la prise de la ville. À l'époque de Jésus, 4 siècles plus tard, ce temple avait été restauré et agrandi de façon magnifique par le roi Hérode, un prince iduméen qui s'était fait investir de la royauté par l'autorité dominante de l'époque qui était Rome. Et c'est ce temple et le service qui s'y déroulait qui était en fonction au moment de cette conversation entre Jésus et cette femme samaritaine. C'est ce qui explique la réponse de Jésus à cette femme lorsqu'elle lui pose une question sur la validité du lieu où l'on adore. Rappelez-vous, au verset 20, nos pères, donc les Samaritains, ont adoré sur cette montagne, elle parlait du mont Garizim. Vous, c'est-à-dire les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc elle pose une question théologique, en quelque sorte, hein, à Jésus. Alors Jésus va lui répondre et il va lui enseigner une double vérité. Première vérité. Une vérité un peu dure. Il lui dit, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On pourrait paraphraser cette parole de Jésus. Votre religion, c'est n'importe quoi. C'est une religion mélangée qui ne peut plaire à Dieu. Jésus dénonce là ce que les théologiens appellent le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est le fait d'incorporer à la vraie religion, telle que Dieu la demande dans la Bible, des éléments du paganisme. Et malheureusement, l'Église, au cours des siècles, aura aussi tendance à tomber dans ce travers. Et c'est entre autres ce qui sera l'origine de la réforme du XVIe siècle. Mais, malgré toutes les infidélités dont les Juifs avaient fait preuve au long de leur histoire, c'est bien dans le temple de Jérusalem que Dieu avait décidé d'habiter au milieu de son peuple pour cette période de l'Ancienne Alliance. Le culte légitime était bien celui de Jérusalem, bien qu'il soit lui aussi fortement entaché de péché. Jésus devra lui-même purifier ce temple, qu'il appelle la maison de son Père, comme vous le savez, en chassant les marchands qui y trafiquaient, comme nous le rapportent les quatre évangiles, et particulièrement la description très, très vivante qu'en fait l'apôtre Jean. Regardez dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 13. Évangile de Jean, chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » La deuxième vérité que Jésus a voulu enseigner à cette femme samaritaine, c'est bien que ce soit le culte rendu à Jérusalem, au temple de Jérusalem, qui est le culte légitime, « Femme, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, qu'est-ce que Jésus révèle là à cette femme? D'abord, qu'un temps est en train de s'accomplir et qu'il va y avoir un grand changement. L'heure vient, c'est maintenant. Cette grande nouveauté, c'est que tout ce que le culte établit selon les directives divines et qui continuait à être en vigueur dans le temple de Jérusalem, allait trouver son accomplissement en Jésus-Christ, le Messie, que justement la femme samaritaine mentionne, on a vu au verset 25. « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Et effectivement, Jésus lui annonce tout. On voit qu'il y avait tout de même aussi des choses vraies hein, dans le culte des Samaritains, dans l'espérance des Samaritains. Alors Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle, c'est moi le Messie, le Christ. » Cet accomplissement va en réalité tout bouleverser. Jésus a donc parlé du lieu et il dit « Ni sur cette montagne, le mont Garizim, ni à Jérusalem. » C'est bien énigmatique. Que voulait-il dire? Alors reprenons notre passage de Jean 2 et lisons maintenant les versets 18 à 22. Donc Jean 2, à partir du verset 18. Je reprends la scène où Jésus est dans le temple et où il chasse les marchands, les vendeurs, etc. Et ça a dû faire un bon afflux. Verset 18, les Juifs lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Donc les Juifs ont dit à Jésus, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» On voit quand même là leur hypocrisie et leur endurcissement, car ils venaient justement de le voir guérir beaucoup de malades et d'infirmes, comme cela est rapporté dans le passage parallèle de Matthieu 21 au verset 14. Jésus avait guéri beaucoup de personnes là sur le parvis du temple au moment où il a purifié le temple. Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » C'est ce qu'on vient de dire. Alors, est-ce que Jésus utilisait une simple image pour parler du temps court, 3 jours, où son corps serait dans la tombe, suivi de sa résurrection? Eh bien, pas seulement. Jésus enseigne bel et bien que le lieu où le Père devra être dorénavant adoré n'est plus un temple physique dans un lieu donné, mais qu'il est lui-même le temple, que son corps est le temple. Le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Un peu plus tard, après la mort de Jésus, sa résurrection et son retour au ciel, Étienne, l'un des 7 hommes choisis par les disciples pour le service des tables, c'est-à-dire un service d'entraide en faveur des veuves, est obligé de s'expliquer devant le Sanhédrin. On trouve ce récit en acte 6, Livre des Actes, chapitre 6, à partir du verset 8. Actes, chapitre 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, produisait des prodiges et des signes grandioses parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des gens de Cilicie et d'Asie engagèrent un débat avec Étienne. Mais ils n'étaient pas capables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit par lesquels ils parlaient. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, puis ils survinrent, s'emparèrent de lui et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazoréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » On voit donc que le motif d'accusation d'Étienne devant le Sanhédrin, ce sont ces versets 13 et 14. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu, le temple, et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazoréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Alors Étienne va prononcer devant le Sanhédrin un grand discours. C'est le sujet du chapitre 7. Voilà. Et voilà, ce sujet du chapitre 7, où il va retracer, sans complaisance, mais en vérité, l'histoire du peuple juif. À partir du verset 35, il devient très incisif et leur rappelle que bien qu'ils se réclament de Moïse, en réalité, leurs pères l'ont rejeté et à travers lui, celui qui le leur avait envoyé, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et au verset 48 du chapitre 7, il affirme « Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines. » En substance, il vient de leur dire « Vous, les chefs spirituels du peuple juif, vous vous réclamez de l'enseignement de Moïse et de sa transmission. En réalité, vous n'avez cessé de désobéir à Moïse et au commandement qu'il vous a transmis de la part de Dieu. Et vous mettez votre confiance dans un sanctuaire que vous profanez par vos trafics et qui va bientôt être détruit. » On voit donc qu'Étienne confirme tout à fait ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Désormais, ce n'est plus dans un lieu précis ni dans un temple, si magnifique soit-il, mais terrestre, que Dieu doit être adoré. Et ce n'est pas non plus l'observation de la loi de Moïse, si bonne soit-elle, mais extérieure, qui sera requise des vrais adorateurs. Mais un service qui requiert l'engagement entier de vos personnes, consacrées et sanctifiées par Christ, notre souverain sacrificateur, le Fils de Dieu. C'est aussi ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 24. En effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable, que Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. L'auteur parle là de la prêtrise de Christ dans cette dispensation complètement nouvelle qu'est la Nouvelle Alliance, que nous rappelons chaque fois que nous participons au repas du Seigneur. Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang, qui est répandue pour vous, comme il est écrit dans Luc 22, 20. Et l'apôtre Pierre reprend ce thème dans sa première épître, au chapitre 2. Je vais prendre donc la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 4. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. « Approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Jésus, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, c'est-à-dire tous les auditeurs, les lecteurs de Pierre, vous-même, des chrétiens donc, hein, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. » Et un peu plus loin, au verset 9, « Vous, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pas pour rien, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » À travers la prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit convainc des hommes et des femmes de péché, de justice et de jugement. Ces rachetés, ces nouvelles créations, constituent ces pierres vivantes par lesquelles la maison spirituelle de Dieu est édifiée dès cette terre et jusque dans l'éternité. Et c'est nous, ces pécheurs rachetés par le sang précieux de Christ, qui sommes ces pierres vivantes, l'habitation de Dieu par l'Esprit, parce que nous sommes le corps de Christ. Voilà donc ce que nous sommes en vérité. Et alors, si nous sommes le nouveau sanctuaire, en quoi consiste notre service dans ce temple spirituel ? Pierre en a déjà donné un aspect dans ce que nous venons de lire. « Pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. » Et c'est ce que nous avons eu le privilège de faire ce matin, notamment dans les prières. C'est en substance tout le témoignage chrétien, la proclamation de la bonne nouvelle en notre faveur. L'apôtre Paul complète ce que dit Pierre en Romains 12, verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. » Qu'est-ce que ça veut dire, offrir son corps ? Les Israélites offraient des animaux ou des offrandes végétales, mais jamais leur corps. Offrir nos corps, c'est nous offrir tout entier. Non pas seulement donner à Dieu un peu de notre temps ou de notre argent, mais faire de son service le but de notre vie, ce qui oriente totalement notre vie. C'est ainsi que nous serons ces adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et ces adorateurs, le Père les cherche. Voulons-nous être ces adorateurs que le Père cherche? Voulons-nous collaborer avec le Saint-Esprit pour que d'autres pécheurs comme nous deviennent de ces adorateurs? Si nous le voulons vraiment, il est clair que cela demande un engagement total de nos personnes. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. C'est ainsi que Paul conclut sa première épître aux Thessaloniciens. Paul forme le vœu, ou la prière, de la consécration totale de ses chers Thessaloniciens qui ont connu l'Évangile par lui, et il les rassure aussitôt en leur disant que celui qui les appelle à une telle consécration est digne de confiance, et que c'est lui qui le fera. Mais bien sûr, il ne pourra le faire que si nous lui disons chaque jour notre oui à cette œuvre de consécration de nos personnes.